Luc chapitre 7, et on va regarder des versets 36 à 50. Luc chapitre 7, des versets 36 à 50. Et pendant que vous cherchez, j'ai appelé la prédication « Aimes-tu le Seigneur ?» Voilà, un peu curieux comme titre, c'est une question. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Et je vais poser quelques questions, quatre questions, des questions que vous allez sûrement trouver, vous pouvez trouver stupides, mais je vais les poser quand même parce que je pense que c'est utile pour le texte. Et pour la prédication, je l'ai voulu la plus simple possible quand Grâce m'a dit que Dan Manuel serait là. Et donc mon objectif, c'est que Dan Manuel comprenne la prédication. Si Dan Manuel comprend la prédication, alors j'aurai réussi une partie de la prédication. Et donc, tu m'écoutes. D'accord? Première question, frères et sœurs. Si vous êtes mariés, réfléchissez. Est-ce que vous aimez votre conjoint? Ah! Et si vous répondez non, bon, c'est qu'on doit avoir une discussion. Mais si vous répondez oui, j'ai une autre question. Comment montrez-vous à votre conjoint que vous l'aimez? Deuxième question, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que vous aimez vos enfants? Si la réponse est oui, là encore, comment vous montrez à vos enfants que vous les aimez? Troisième question, ceux qui ont des parents, et là ça concerne tout le monde, ceux qui ont des amis, ça concerne encore tout le monde. Est-ce que vous aimez vos amis?
Oui.
Et comment vous montrez à vos amis ou à vos frères et sœurs que vous les aimez? En fait, Pierre Reverdy, un poète français, a écrit que il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'idée, c'est pas qu'on discute sur la citation, c'est plus qu'on essaie de regarder à ce qu'il y a derrière cette citation. Ce qu'il essaie de dire, c'est que dire qu'on aime quelqu'un et qu'on n'est pas capable de prouver à la personne qu'on l'aime, c'est faux, c'est qu'on n'aime pas vraiment la personne. En gros, l'amour et les preuves d'amour vont ensemble, vous voyez? Maintenant, permettez-moi de poser une dernière question. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Quelle est la preuve? Comment est-ce que vous montrez au Seigneur que vous l'aimez? Je veux dire, au vu de la déclaration de Pierre Reverdy, quelles sont les preuves de votre amour pour le Seigneur? Disons, Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quelle douce parole. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Trois personnages principaux dans le texte, Jésus, Simon et la femme pécheresse. Et on va étudier le texte autour de ces trois personnages-là. Simon, le premier point, Simon qui juge Jésus. Oula.
Assonance.
Quelqu'un veut dire? Tu peux dire toute la phrase?
Simon juge Jésus.
Merci. Versets 36 à 39. Jésus juge Simon. Versets 40 à 47. Et dernier point, Jésus sauve la femme. Versets 48 à 50. Vous voyez? Donc, trois points très simples. Dame Danielle, c'est bon? Tu suis jusqu'ici? Super. Premier point. Simon juge. Voilà. Juste avant ce passage que nous avons ici, Jésus a dépeint un peu l'attitude fermée des pharisiens. Je veux dire que si vous regardez les versets, alors non, on a commencé à lire au verset 36, mais si vous regardez un peu plus haut dans les versets 33 à 34, vous verrez que Jésus dit « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Autrement dit, Jésus disait que peu importe ce qu'il fait, lui ou Jean, les pharisiens avaient déjà une idée arrêtée de qui il est. C'est-à-dire qu'ils les avaient déjà rejetés. Leur cœur était fermé vis-à-vis de Jésus. Dans l'idée globale de ce que Luc est en train d'expliquer ici, les pharisiens estimaient quoi? Si quelqu'un dit qu'il est un prophète, à plus forte raison, le Messie, et que cette personne passe du temps avec des gens rejetés, des laissés pour compte, des publicans, des gens de mauvaise vie, des pécheurs. Ah, il y a un sérieux doute sur le caractère prophétique de la personne. À plus forte raison encore, comment imaginer, et ça c'est ce que les pharisiens se disaient, comment imaginer que quelqu'un puisse dire être le Messie et ne pas être d'accord avec eux, les pharisiens. Vous voyez? Et c'est exactement ce que Jésus était. Il accueillait les gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux. Et il n'était pas d'accord avec les pharisiens. Et donc, les pharisiens avaient tiré une sorte de conclusion vis-à-vis de Jésus. Jésus, pour eux, n'est pas un prophète. Pour eux, Jésus est un blasphémateur. Et donc, dans le contexte, c'est un peu le contexte de l'invitation de Simon. Il invite Jésus et, a priori, Simon ne s'intéresse pas vraiment à Jésus. Je veux dire que ce n'est pas un homme qui est en recherche de vérité. Comme la plupart des pharisiens, il a déjà une idée arrêtée sur Jésus. Pour lui, Jésus n'est pas le Messie, n'est pas un prophète. C'est un blasphémateur. Et donc, un pharisien qui se respecte ne pourrait pas inviter un blasphémateur chez lui. S'il l'invite, c'est sûrement qu'il veut soit le piéger ou lui faire du mal. Okay, donc bon, on ne sait pas exactement. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir aussi en termes de repas, parce que Simon, du coup, invite Jésus à venir manger chez lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on est un homme important, le repas qu'on donne chez lui est un peu particulier. Les invités ne sont pas assis à table comme nous aujourd'hui. Ils sont couchés sur des divans, adossés sur le coude gauche et mangeant sûrement avec la main droite. Et en même temps, ils sont dans une sorte d'espace ouvert, enfin ouvert ou semi-ouvert, et ils sont au centre de cet espace-là. Et les gens de l'extérieur peuvent venir Vous voyez, un peu comme un match de foot. Le repas était un peu comme ça. Les gens de l'extérieur peuvent venir et s'asseoir au bord des murs, tout autour, et écouter les discussions. Vous voyez? C'est d'ailleurs dans ce contexte-là, de cette façon-là, que la femme, que cette femme-ci, au verset 37, peut s'introduire et arriver jusqu'au lieu du repas. Verset 37. Regardez. Il y a... Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre. Il est dit que cette femme est une pécheresse qui se trouve dans la ville. Et donc, a priori, c'est une prostituée. C'est-à-dire une professionnelle de l'adultère. Une femme sexuellement immorale. Elle a une vie de péché qui est flagrante, vue et sue de tout le monde. Il semble même que cette femme était bien connue. Son bureau était connu de tout le monde dans la ville. Elle sait que Jésus est dans la maison. Elle arrive avec un vase d'albâtre, c'est-à-dire c'est un vase de grande valeur. Et donc, si un vase est de grande valeur, le parfum qui est dedans est comment? Sûrement de grande valeur aussi. Okay? Et elle vient, lorsqu'elle arrive en présence de Jésus, et on a l'impression qu'elle est submergée d'émotions et elle commence à pleurer. Pendant qu'elle pleure, elle se rend compte de quelque chose. Ah, la courtoisie de base, la plus élémentaire, n'a pas été accordée à Jésus. Vous voyez, du coup. Vous comprenez le contexte de l'invitation de Simon. Il ne lui a même pas accordé la courtoisie de base. À cette époque, lorsque vous invitiez quelqu'un chez vous, vous embrassiez la personne en signe d'hospitalité. Vous demandiez à vos esclaves de laver la poussière sur les pieds de la personne et on oignait la tête de la personne avec de l'huile en signe de respect. Et la femme se rend compte que rien de tout ça n'a été fait vis-à-vis de Jésus. Et c'est ce qu'elle va faire au verset 38. Vous avez vu au verset 38? Vous vous souvenez de comment ils sont installés pour manger? Ils sont allongés. Et donc, puisqu'ils sont allongés, elle a accès aux pieds de Jésus. Elle voit ses pieds sales, rempli de poussière. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt lui mouilla ses pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Le pharisien est un peu écœuré par la scène qu'il voit. Vous voyez? Pour lui, Jésus ne peut pas être ce qu'il prétend être. Pour lui, Jésus ne peut pas être le prophète annoncé par Moïse. Jésus ne peut pas être le Messie envoyé par Dieu. Et quelle est la raison? Il dit, s'il était le Messie, il saurait qui est cette femme qui le touche. En d'autres termes, comment Jésus peut-il prétendre nous enseigner des choses que nous ne connaissons pas, si lui-même n'est pas capable de savoir ce que tout le monde connaît? Vous voyez? Et qu'est-ce que tout le monde connaît? C'est que cette femme-là est une pécheresse, est une professionnelle de l'adultère. Si Jésus était vraiment un prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse et que moi, Simon, je suis un homme juste, un homme qui respecte la loi, qui donne la dîme, qui fait le sabbat. Voilà ce que Simon pense. Voilà comment il juge. Voilà comment il juge Jésus. Deuxième point. Jésus juge Simon. Remarquez que Simon juge Jésus dans son cœur. Vous avez vu, hein? On dit que Simon parle en lui-même. Aucune parole n'est prononcée. Mais au verset 40, on voit que Simon n'a peut-être rien dit, mais Jésus a tout entendu. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. lui répondit-il. Et donc dans les versets 40 à 43, Jésus va utiliser une parabole pour passer l'enseignement qu'il veut à ce moment-ci. Il y a un créancier et deux débiteurs. Une personne doit combien ? 50 deniers et l'autre 500 deniers. Les montants de la dette sont importants. Les deux débiteurs ne peuvent pas rembourser. Vous savez, aujourd'hui, lorsque une personne est en faillite, insolvable, ok, on le met en surendettement et on efface sa dette. Ah, parce qu'il ne peut pas rembourser, il ne pourra pas rembourser. Mais à cette époque, ce n'était pas exactement la même chose. Lorsque un homme était déclaré insolvable, il pouvait être vendu comme esclave. Lui, sa femme et ses enfants. Il pouvait être vendu comme esclave. Je veux dire par là que quand on voit ça, quand on a l'idée, quand on voit ce que les deux débiteurs risquaient, on comprend que l'idée que le maître leur remette la dette à tous les deux, ce n'est pas un pardon qui est banal. C'est vraiment une grande libération. C'est une vraie bonne nouvelle. Il les libère de l'esclavage qui s'ouvre devant eux. Mais voilà la question qui est posée. Lequel des deux va aimer le plus, à votre avis? Qui va aimer le plus? Celui qui a la plus grande somme. Celui à qui on pardonne beaucoup. Et donc Simon va répondre correctement. Jésus va proposer à Simon de répondre et il va répondre correctement. Il dit, c'est celui à qui on enlève la plus lourde dette qui aime le plus. Et c'est exactement ce que Jésus voulait lui faire comprendre. Le cœur de notre texte bat à cet endroit précis. Sur la base de la parabole et du jugement de Simon, Jésus va appliquer la parabole à la situation présente qu'il soit en train de vivre. Le créancier. C'est qui le créancier? Le créancier, c'est Jésus. C'est lui à qui on doit l'aider, on doit de l'argent. Celui qui doit 50 deniers, c'est qui? Le pharisien. Il pense qu'il est quelqu'un de bien. Et celui qui doit 500 deniers, c'est la femme pécheresse. Et la dette, c'est quoi? La dette, c'est le poids du péché de chacun des deux. Jésus va comparer Simon et la femme. Ce qu'il n'a pas fait et ce qu'elle a fait. Vous voyez, lorsqu'il a invité. Ce que lui n'a pas fait et ce qu'elle, elle a fait. Le baiser de salutation. Tu ne l'as pas fait. Elle l'a fait. C'était un geste d'accueil et de respect. Ils devaient s'embrasser sur les joues. Et la femme embrasse les pieds de Jésus. Le lavement des pieds était fait par les esclaves. Il n'était pas attendu que ce soit Simon lui-même qui lave les pieds. Mais cette femme la lave les pieds de Jésus avec ses larmes et avec ses cheveux. Comme pour dire, je n'ai pas d'esclave, mais je suis ton esclave. Je suis ta servante. Et l'onction d'huile, en signe d'honneur, cette femme a rapporté un parfum de grande valeur. Et c'est après cette explication que Jésus dit, non seulement à Simon, mais aussi à tous ceux qui écoutent, il leur dit une chose qu'ils ne savent pas. Vous vous souvenez? Eux, ils se disaient, mais comment Jésus peut nous enseigner des choses qu'on ne sait pas, alors qu'il ne sait pas ce que tout le monde sait? Mais maintenant, il va leur dire quelque chose qu'aucun d'eux ne sait. Verset 47, il va dire, ses péchés ont été pardonnés. Vous voyez? Eux, ils croient tout voir et tout savoir de cette femme. Et c'est justement le pardon de ses péchés qui explique cette grande démonstration d'amour. En fait, jusqu'ici, je pense que Jésus met un peu une sorte de miroir devant Simon et devant chacun de nous aussi. Il demande à Simon, « Quelle est la preuve d'amour que tu m'as manifestée ?» Absolument rien. Et la question pourrait nous être posée à nous aussi. Je veux dire que si notre amour pour Jésus est tiède, est sec, si notre relation avec Dieu ressemble plus à une obligation qu'à une passion débordante dans nos cœurs, c'est peut-être qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de ce qui nous a été pardonné. Parce que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Le troisième point. Jésus sauve la femme. Versets 48 à 50. Après avoir confronté Simon à l'amour qu'il dit avoir pour Dieu, Jésus va se tourner vers la femme. Et ce qu'il lui dit ensuite va provoquer un nouveau scandale autour de la table. Enfin, autour de la table, sur le divan. Il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Les convives n'en reviennent pas. D'abord, c'était Simon qui jugeait en silence. Maintenant, c'est tous les invités qui jugent et qui s'indignent. Qui donc est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus, qui connaît parfaitement leurs pensées, répond une phrase simple et libératrice à cette femme. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alors, maintenant, il faut faire un pas de recul et essayer de comprendre ce qui se passe ici. Vraisemblablement, cette femme-ci a entendu Jésus prêcher. Je veux dire que quand Jésus prend l'exemple de la parabole et qu'il dit que il y a quelqu'un à qui on a remis 500 une dette de 500 deniers et que c'est parce que cette personne, on lui a pardonné, elle l'aime beaucoup. Et il est en train de dire que cette femme-ci, ce n'est pas vraiment parce qu'elle lave les pieds de Jésus qu'elle l'est pardonnée. Ce n'est pas parce qu'elle l'aime qu'elle l'est pardonnée. En fait, son amour est la réponse à un pardon qu'elle a déjà reçu. Je veux dire, cette femme a sûrement entendu Jésus prêcher dans les rues et elle a été touchée. Elle a certainement entendu Jésus parler du royaume de Dieu et de comment on entre dans le royaume de Dieu. Elle a certainement entendu Jésus dénoncer les péchés des hommes et les appeler à la repentance. Elle a certainement entendu Jésus affirmer que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer la grâce du Seigneur. Elle a sûrement déjà entendu Jésus parler de ça. Elle entend Jésus parler de ce message de réconciliation. Elle entend que Jésus non seulement prêche la réconciliation, mais aussi il accueille les pécheurs. Jésus dit que celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et ici, dans notre cas, cette femme est pardonnée. Revenons un peu à ce qui se passe au verset 38 pour comprendre. Elle se prosterne au sol, derrière le Seigneur, et elle pleure. Ce ne sont pas des larmes de repentance. C'est peut-être les deux mélangés, de la repentance et de la reconnaissance. Elle connaît l'étendue de son péché. Et son cœur aspire à être libre désormais. Elle le serre exactement comme une esclave de l'époque aurait fait. Elle lui lave les pieds, mais cette fois non pas avec de l'eau et une serviette, mais avec ses larmes et avec ses cheveux. Alors, frères et sœurs, si vous savez ce que les cheveux représentent pour certaines femmes, alors vous pouvez imaginer la profondeur de la démonstration d'amour qu'elle est en train de faire, cette femme ici. Si on lui avait posé la question, aimes-tu le Seigneur? Elle aurait certainement dit oui. Si on lui avait demandé, comment montres-tu au Seigneur que tu l'aimes? Elle aurait répondu, tout ce que je suis est au service du Seigneur. Tout ce que j'ai est au service du Seigneur. Vous voyez, elle est là et elle donne de sa personne. Et elle donne de ce qu'elle a, le parfum, le vase d'albâtre est là, et il est rempli de parfum. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez le Seigneur? Comment le lui montrez-vous? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Remarquez que cette femme n'a plus honte désormais. Et là ici, je veux, et c'est ce que Yann disait tout à l'heure, je veux qu'on voit la puissance du pardon. Elle n'a plus honte. Elle sait que tout le monde sait ce qu'elle fait. Elle entre dans cette maison-ci et elle sait que toutes les personnes qui sont là la connaissent. Peut-être même que parmi ceux qui mangent, il y a ses anciens clients. Mais elle sait que son identité a changé. Peu importe désormais les critiques, les moqueries, peu importe désormais le regard que les gens posent sur elle, Jésus a changé son histoire. Et si Jésus change son histoire, personne ne peut réécrire cette histoire-là, même pas le diable. En prenant l'exemple de la dette, Jésus dit que désormais, non seulement cette femme ne sera plus esclave de personne, mais mieux encore, elle ne sera même plus esclave des péchés sexuels dans lesquels elle était enchaînée depuis si longtemps. Vous voyez? Et je ne résiste pas, puisque je parle de péché sexuel ici, je ne résiste pas à l'idée de m'arrêter un petit peu là-dessus, puisque c'est un petit peu... ça semble être le péché qui est pointé chez cette femme-ci. C'est sûr que parler du péché sexuel peut être délicat et sensible. Ah, et peut-être que ce matin, quelqu'un écoute ça et se dit « Ah, Gaël, si tu savais, et si les gens de l'Église connaissaient les péchés sexuels dans lesquels je suis empêtré, peut-être que je serais rejeté et peut-être que je ne serais pas le bienvenu ici. » Peut-être aussi qu'il se trouve ici parmi nous des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont actuellement en lutte avec un péché sexuel. Peut-être que vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme. Peut-être que vous êtes addict à une sexualité individuelle ou numérique. Vous voyez de quoi je veux parler? Et là encore, vous vous dites, heureusement que personne ici n'est au courant, parce que sinon, je serais sûrement rejeté. Je veux dire à chacun, sans être prophète et avec humilité, qu'il n'y a personne sur cette terre et dans cette salle qui soit innocent sexuellement. Nous sommes tous pécheurs sexuels. Et c'est ce que Jésus a dit en Marc 5. Il a dit, avant l'acte, ça commence dans la tête. Et à partir de ce moment, nous sommes tous coupables. Tous, autant que nous sommes. Et je dis ça pour désarmer ceux qui pourraient soit juger les autres, soit alors... se sentir trop suffisant. Si vous êtes là et que vous êtes dans une de ces situations-là, la première chose qu'il faudrait savoir et entendre, la bonne nouvelle, c'est que dans ce texte-ci, vous voyez de quoi Jésus pardonne cette femme? De tous ses péchés sexuels. Et donc, c'est pardonnable. Il y a une bonne nouvelle. C'est pardonnable. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir devant Dieu ce matin pour entendre Jésus vous dire, comme il a dit à cette femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et vous pouvez aussi venir pour qu'on en discute. Ne restez pas seul avec le poids de cette culpabilité sur les épaules. Les implications de ce texte sont évidentes. Chacun doit répondre à la question « Aimes-tu le Seigneur ?» Comment le lui montres-tu? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'amour sans les preuves n'existe pas. En réalité, avant que cette femme n'aime le Seigneur l'a d'abord aimé et lui a prouvé son amour. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça, aimer son ennemi jusqu'à mourir à la croix pour lui, alors qu'il est encore le poing levé contre toi. Et c'est ce que Dieu a fait. Il ne se contente pas de dire « je t'aime ». Il prouve qu'il aime. Et comment il le fait? Il donne son fils à la croix. Et c'est d'ailleurs exactement ce que Jésus met ici en relief dans la parabole. Pensez un peu au créancier et à la dette de la parabole. Que devient la dette? Est-ce que Jésus prend la dette sur la femme et la met sur un autre invité qui est là? Absolument pas. Lorsque le créancier enlève la dette de cette femme, il ne le met pas sur quelqu'un d'autre. Non, Danou, il ne jette pas. Et c'est là que tu dois vraiment écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui-même. Jésus a pris la dette de chacun de nous sur lui-même. Il prend la dette de cette femme, les péchés de cette femme, et il met sur lui-même. C'est lui qui va désormais porter sur lui toute la vie d'adultère de cette femme. C'est lui qui va désormais porter le prix de tous les mariages brisés par cette femme. C'est Jésus, le créancier, qui va désormais porter sur lui la punition que méritent tous les avortements de cette femme. Et il prend désormais la vie pécheresse de la femme. Et il donne quoi à la femme? Sa vie à lui. Il l'a réconcilié avec Dieu. Et il lui dit quoi? Va en paix. Va en paix. Je pense que c'est ce que Yann disait tout à l'heure quand il parlait de l'assurance, du pardon. Va en paix. Celui dont les péchés sont pardonnés est en paix avec Dieu. C'est ce qu'il dit, Romains 5, le verset 8. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous regarde désormais avec un cœur apaisé. Nous pouvons vivre la certitude du pardon. Troisième implication. Pour nous, dans ce texte, premièrement, souvenez-vous. Il semble que la reconnaissance de cette femme est motivée par le souvenir de ses péchés et du grand pardon qu'elle a obtenu. C'est une bonne chose à faire. Ne pas oublier la grâce qu'on a reçue. La garder devant nos yeux constamment. C'est ce que je disais à Jérémy. J'aime bien me souvenir de ce dont Dieu m'a pardonné. De ce moment-là où j'ai senti le poids de mon péché tomber et j'ai accueilli la grâce de Dieu. Saint Augustin écrit « Je veux rappeler mes impuretés passées et les charnelles corruptions de mon âme, non que je les aime, mais afin de vous aimer, mon Dieu. » Vous vous souvenez de ce qu'on a... de ce que le Seigneur a dit plus haut, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Si on se souvient de tout ce qu'on n'a pas, de tout ce dont on a été pardonné, alors notre amour pour le Seigneur ne peut que grandir. La deuxième chose, rassurez-vous. Si vous avez demandé pardon, alors vous êtes vraiment pardonné. Si vous, comme cette femme, vous avez entendu Jésus qui appelle à la repentance et qui promet le pardon, et que vous demandez pardon, alors vous êtes vraiment pardonné. Désormais, il n'y a plus de dette sur vos épaules. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Il a détruit à la croix. Et donc, soyez rassurés, vous êtes en paix avec Dieu. Et troisième chose, exprimez-vous. Comment donc démontrer votre amour? Comment donc démontrez-vous votre amour? Il me semble que la bonne façon d'aimer quelqu'un, ce n'est pas de faire comme on veut. Je veux dire par là que si vous voulez, si vous aimez le rôti de porc et que vous voulez démontrer votre amour à Maman Célestine et que vous l'invitez à venir manger le rôti de porc, je pense qu'il y aura une grande déception. Parce que Maman Célestine ne mange pas de porc. La bonne façon de lui montrer de l'amour, c'est de savoir ce qu'elle aime. et de l'aimer exactement de cette façon-là. Concernant notre Seigneur, Elisha, en Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit clairement comment l'aimer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est clair, les deux commandements, Jésus résume les commandements en deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire quoi? Le respecter, reconnaître son autorité dans nos vies, sur nos choix, dans nos décisions. Et la deuxième chose, aimer son prochain comme soi-même. Ma prière, c'est que ce texte et ce message nous transforme notre vie, notre amour pour le Seigneur, mais aussi notre amour les uns avec les autres. Si vous aimez, si vous êtes marié, est-ce que vous aimez votre mari? Comment le lui montrez-vous? Est-ce que vous aimez vos enfants? Comment le lui montrez-vous? Est-ce que vous aimez vos parents et vos amis? Comment le lui montrez-vous? Pierre Reverdy, le poète français, a dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». On ne peut pas dire « Je t'aime » et ne pas le prouver. Quelle est la preuve que vous aimez vraiment le Seigneur? Je veux dire, si le Seigneur vous demandait quelle est la preuve que vous m'aimez, si vous dites autre chose, si vous dites « Seigneur, je fais un footing de 10 km tous les matins pour toi », ce n'est pas ça. Mais si vous lui dites « Seigneur, je veux entendre ta parole et tes commandements tous les jours. Je veux les vivre dans tous les domaines de ma vie, même quand c'est difficile. » Ah, le Seigneur se sentira aimé. Nous allons prendre la scène maintenant.